Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 7 juillet 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. Au sommaire du journal, Blaise Compaoré est revenu au Burkina Faso après des années d'exil en Côte d'Ivoire. Il va participer demain à Ouagadougou à une réunion d'anciens chefs d'État avec le nouvel homme fort du pays. En RDC, le M23 dit que le cessez-le-feu annoncé à Luanda ne l'engage pas. Le premier ministre britannique Boris Johnson annonce sa démission de chef du parti conservateur, ce qui ouvre la voie à son remplacement à la tête du gouvernement. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré est arrivé ce jeudi. À Ouagadougou, il doit participer demain, aux côtés d'autres anciens chefs d'État, à une rencontre avec le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, une rencontre placée sous le signe de la réconciliation nationale. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À l'aéroport de Ouagadougou, quelques centaines de personnes, des partisans de Blaise Compaoré, sont venus l'accueillir. Vous vous êtes là, concert de klaxons. Ils sont venus voir leur leader, revenu au pays après près de 8 ans d'absence. Blaise Compaoré a décollé à 12h45 heure d'Abidjan, en compagnie de son épouse et Ali Koulibaly, conseiller du président ivoirien. Leur avion a atterri à 14h00, heure locale à la base aérienne. Mais ses partisans mobilisés ne le verront pas, puisque quelques minutes après la descente de l'avion, un hélicoptère militaire l'a transporté vers une destination inconnue. Demain, aux côtés d'anciens présidents tels que Roch Kabore, Michel Kafando, Isaac Zida et Jean-Baptiste Ouédraogo, Blaise Compaoré va participer à une rencontre avec le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Après la rencontre, Blaise Compaoré devrait retourner samedi à Abidjan. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les manifestations ont repris aujourd'hui à Conakry pour protester contre l'arrestation de 3 leaders du Front National pour la défense de la Constitution après de précédents heurts ayant fait 17 blessés parmi les policiers. Depuis mardi soir, des heurts ont secoué la capitale guinéenne et après une accalmie en début de matinée jeudi, des manifestants munis de cailloux et de bâtons se sont à nouveau confrontés aux forces de l'ordre dans des quartiers de la banlieue comme Bambeto, Hamdalaï et Wanidara. Le cessez-le-feu annoncé hier à Luanda n'engage pas le M23, a déclaré le groupe rebelle. Le président angolais João Lourenço l'avait annoncé hier à l'issue d'un mini-sommet entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Les détails avec Claire Morin-Gibou.
Nous sommes des Congolais, pas des Rwandais. S'il y a un cessez-le-feu, cela ne peut être qu'entre nous et le gouvernement congolais, a indiqué Willy Ngoma, porte-parole du M23. Nous n'avons rien à voir avec le Rwanda, a insisté M. Ngoma. On nous demande de quitter ici, mais pour aller où? C'est impossible. De nouveaux affrontements ont opposé ce matin encore l'armée congolaise aux rebelles du M23 qui se sont emparés de Kanyabusuro, une localité du territoire de Rutshuru. Un commandant des FRDC a accusé les rebelles d'avoir attaqué les militaires en violation du cessez-le-feu annoncé la veille, ce qu'a démenti le M23, accusant l'armée de l'avoir attaqué. Une médiation entre les présidents du Rwanda et de la RDC s'est tenue hier à Luanda. Kinshasa a annoncé que Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont d'accord sur un processus de désescalade avec une feuille de route, dont la réunion d'une commission mixte le 12 juillet à Luanda.
Nous retrouverons le porte-parole du M23, Willy Ngoma, dans la partie magazine de ce journal. La mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, a besoin du soutien et de la coopération des autorités militaires pour accomplir son mandat, a plaidé aujourd'hui son chef El Hassim Wan, quelques jours après son renouvellement. Notre travail au Mali ne peut être mené à bien qu'avec le soutien et la coopération des autorités maliennes, a dit ce jeudi M. Wan en conférence de presse à Bamako, appelant à un dialogue constant pour surmonter des incompréhensions. Le mandat de la MINUSMA a été renouvelé pour un an le 29 juin, mais avec une opposition ferme du Mali à la liberté de mouvement des casques bleus pour des investigations liées aux droits de l'homme. Les groupes pro-démocratie au Soudan ont annoncé ce jeudi former un conseil révolutionnaire contre le général Abdel Fattah al-Burhan, refusant son offre de gouvernement civil, alors que les manifestants maintiennent leur sit-in pour réclamer le départ du chef militaire. Ce conseil devrait compter 100 membres, pour moitié des militants des comités de résistance et pour l'autre, moitié moitié des représentants de partis et de syndicats, de mouvements rebelles ayant refusé la paix avec le régime militaire ainsi que des proches de manifestants tués dans la répression, a détaillé Mohamed Al-Jeli, l'un des coordonnateurs du mouvement. 9 Soudanais ont été tués et plusieurs dizaines d'autres blessés ce jeudi dans un accident de car sur la route entre Abu Simbel et Assouan dans le sud touristique de l'Égypte. Jeudi matin, le bus qui transportait les passagers à quelques dizaines de kilomètres de la frontière soudanaise est entré en collision avec un camion réfrigéré transportant des pains de glace sur la route désertique menant à Abu Simbel. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste ENADA a appelé aujourd'hui, ses partisans ont boycotté le référendum du 25 juillet qui amende la Constitution, dénonçant la construction d'un régime autoritaire. Une trentaine d'ONG, dont le syndicat des journalistes tunisiens et la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ont appelé aujourd'hui à boycotter le scrutin, dénonçant un texte écrit par une seule personne sans participation de la société civile ni d'experts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé sa démission de chef du parti conservateur. Il a été lâché par des dizaines de membres de son gouvernement dans le sillage d'une série de scandales. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Poussé à la démission, Boris Johnson se dit triste d'abandonner ce qu'il qualifie de meilleur travail au monde avant de fondre dans des remerciements.
Above all, I want to thank...
Je tiens avant tout à vous remercier, vous le public britannique, pour l'immense privilège que vous m'avez accordé. Et je veux que vous sachiez qu'à partir de maintenant, et jusqu'à ce que le nouveau Premier ministre soit en place, vos intérêts seront servis et la gouvernance du pays sera poursuivie.
Nommé en juillet 2019 pour succéder à Theresa May, le Premier ministre britannique a été affaibli par une série de scandales. Le dernier en date a été provoqué par la démission de l'élu conservateur Chris Pincher, accusé d'avoir fait des avances à des collègues hommes dans un club privé. Dans la foulée, plus de 50 membres de l'exécutif britannique ont démissionné. Les conservateurs doivent élire un nouveau dirigeant et cela pourrait prendre environ 2 mois. Boris Johnson a affirmé que le calendrier pour l'élection d'un nouveau leader conservateur serait précisé la semaine prochaine.
Les ministres des Affaires étrangères des pays du G20 sont réunis à Bali pour préparer le sommet du G20 en novembre prochain. L'Indonésie, le pays hôte, a invité les présidents ukrainiens et russes, malgré la réticence des États-Unis. Nani Talani.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken sera à Bali pour cette réunion, mais ne va pas rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov, a fait savoir le département d'État. Il doit en revanche s'entretenir avec son homologue chinois Wang Yi afin d'aborder la question des tensions sino-américaines. Un responsable américain a déclaré s'attendre à ce que pratiquement tous les pays du G20 s'accordent sur des initiatives visant à remédier à l'insécurité alimentaire mondiale et à la volatilité des prix de l'énergie entraînée par l'invasion russe de l'Ukraine. Une déclaration commune du G20 sur l'Ukraine ne serait pas possible en raison de la participation de la Russie au sommet. Pour sa part, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, n'a programmé aucune rencontre avec le chef de la diplomatie russe. La participation de la Russie peut constituer une menace pour la crédibilité, l'efficacité et la pertinence du G20, a mis en garde sa porte-parole, Nabila Masrali.
Les forces russes ont bombardé aujourd'hui plusieurs villes du Donbass, bassin de l'est de l'Ukraine, qu'elles veulent conquérir en totalité, notamment celle de Kramatorsk. Les bombardements ont fait des victimes parmi la population de la région. Depuis la prise de la ville stratégique de Lysychansk, le 3G qui lui assure le contrôle de Luhansk, l'autre région du Donbass, la Russie a entamé une pause opérationnelle, affirme l'Institut américain pour l'étude et la guerre. Et puis, la joueuse américaine de basketball Brittany Griner a plaidé coupable aujourd'hui de trafic de drogue devant un tribunal russe, mais a démenti toute violation volontaire de la loi. J'étais pressée en faisant mes bagages et les cartouches se sont retrouvées accidentellement dans mon sac, a-t-elle dit pour expliquer la présence de liquide à base de cannabis dans ses bagages. Juste après sa prise de parole, l'audience a été ajournée jusqu'au 14 juillet, date à laquelle elle sera entendue et interrogée par la cour. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. présent, la Minute Écho avec Claire Morin-Gibou.
En République démocratique du Congo, les tensions montent entre la GECAMINE et China Molybdenum, la société chinoise propriétaire de Tunke Fugurume, deuxième plus grande mine de cobalt au monde. Selon l'agence Reuters, China Molybdenum est désormais interdite d'exportation de cuivre et de cobalt. Le propriétaire chinois de la mine est notamment accusé de sous-évaluer les réserves de la mine pour payer moins de redevances à la GECAMINE. L'Association des compagnies aériennes africaines a fait savoir que ses membres risquent de perdre jusqu'à 4 milliards de dollars cette année à cause de la hausse des prix du kérosène. L'organisation affirme que les compagnies aériennes essayent pour le moment d'ajuster les prix des billets. Selon les statistiques officielles, le prix du kérosène est passé de 0,85 dollars le litre en janvier à 1,25 dollars le litre actuellement. En seulement 3 mois, la flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie dans le monde a fait plonger dans la pauvreté 71 millions de personnes vivant dans des pays à faible revenu, indique un rapport du PNUD. Cette accélération de la pauvreté est considérablement plus rapide que le choc de la pandémie de Covid-19, note le PNUD, qui impute la flambée des prix en partie à la guerre en Ukraine, ce que dément la Russie.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Troisième et dernière journée de la phase de groupe à la CAN féminine Maroc 2022.
Oui, le groupe C boucle cette phase de poule aujourd'hui. Après sa défaite inaugurale, le champion en titre, le Nigeria, veut se relancer face au Botswana. Vainqueur lors de sa première sortie, l'Afrique du Sud voudra confirmer face au Burundi. Hier, dans le groupe B, la Tunisie s'est inclinée 1-0 devant la Zambie. Le Cameroun a été tenu en échec par le Togo 1-1. Pour rappel, le Sénégal et le Maroc sont déjà qualifiés pour les quarts après leurs deux premières sorties victorieuses.
Football toujours, Sébastien Haller quitte l'Ajax d'Amsterdam.
Oui, l'attaquant ivoirien a rejoint Dortmund où il va renforcer le club allemand orphelin de son buteur vedette Erling Haaland, parti à Manchester City. L'annonce a été faite par le Borussia. L'Ajax a précisé qu'il va recevoir 31 millions d'euros pour ce transfert. Sébastien Haller, 28 ans, fait son retour en Allemagne après avoir déjà évolué en Bundesliga entre 2017 et 2019 sous le maillot de l'Eintracht Francfort. Il a ensuite rejoint l'Angleterre et West Ham de 2019 à 2021, puis l'Ajax en janvier 2021. Sous le maillot de l'Ajax, il a marqué 47 buts en 65 apparitions, toutes compétitions confondues, dont 11 buts la saison écoulée en Ligue des Champions.
Rugby, Namibie et Kenya en finale des qualifications au Mondial 2023 Zone Afrique.
Oui, la Namibie, grande favorite du tournoi, et le Kenya se sont qualifiés pour la finale des qualifications de la Zone Afrique. Au cours de la première demi-finale disputée à Marseille, le Kenya s'est difficilement imposé 36-33 contre l'Algérie, sélection jeune qui n'a intégré le classement mondial que l'an dernier. De leur côté, les Namibiens ont battu le Zimbabwe 34-19 dimanche à Aix-en-Provence. La finale opposera donc la Namibie, habituée à la Coupe du Monde et présente aux 6 dernières éditions, au Kenya. Le vainqueur intégrera la poule A lors de la Coupe du Monde prévue l'an prochain en France.
Basketball, début hier de la période officielle des transferts en NBA.
Minnesota a confirmé avoir recruté Rudy Gobert en provenance de Utah. À 30 ans, le pivot français a fait l'objet d'un échange entre Minnesota et Utah, qui a reçu 5 joueurs et 4 choix de premier tour de draft dans les années à venir, 2023, 2025, 2027 et 2029, ont précisé les Timberwolves. Le triple meilleur défenseur de 2m16 a fait toute sa carrière NBA, débutée en 2013 à Utah. Avec la franchise de Salt Lake, il n'a jamais dépassé le stade des demi-finales de la conférence Ouest. Le Jazz a été éliminé cette saison dès le premier tour des playoffs. Rudy Gobert entre donc dans la deuxième année de son méga contrat signé en décembre 2020, 205 millions de dollars sur 5 ans, qui lui garantit sous son nouveau maillot un salaire annuel de plus de 38 millions de dollars.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré est arrivé ce jeudi à Ouagadougou. Il doit participer demain aux côtés d'autres anciens chefs d'État à une rencontre avec le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, une rencontre placée sous le signe de la réconciliation nationale. Dans la capitale burkinabé, des partisans de l'ancien chef d'État étaient mobilisés à l'aéroport, mais ce retour de Blaise Compaoré n'est pas du goût de tout le monde. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À l'aéroport, quelques centaines de partisans de Blaise Compaoré sont mobilisés. C'est la joie ici de voir leur leader revenir au pays après près de 8 ans d'exil.
Nous sommes là pour accueillir notre ex-président. Tout ce qu'ils ont fait, on est là. Ah, on ne s'inquiète pas, ce qui est là sûrement, on est là.
Nous, on est contents que le Blaise Compaoré est arrivé au Burkina Faso. Nous, on est contents.
Non, en tout cas, pour nous, le peuple burkinabé, surtout pour la jeunesse, c'est un message fort que le président Damiba a envoyé. Parce que, bon, franchement, on ne peut pas réaliser la paix sans tous les leaders qui n'étaient pas là et qui sont en train de rentrer. En tout cas, nous sommes vraiment contents de l'arrivée du président Blaise Compaoré.
Tous ceux qui sont à l'aéroport, nous sommes contents du retour de notre frère, notre papa, notre oncle et l'ex-président Blaise Compaoré.
L'avion transportant Blaise Compaoré a atterri à 14h, heure de Ouagadougou, à la base aérienne, puis ensuite héliporté de la base aérienne vers une destination inconnue. De l'autre côté de la ville, nous retrouvons Serge Bayala, militant de la société civile et du mouvement Le Balai Citoyen. Il a participé aux manifestations qui avaient conduit à chasser Blaise Compaoré au pouvoir en 2014. Serge Bayala.
Pour nous qui avons chassé Blaise Compaoré du pouvoir en 2014, nous considérons que c'est un attentat à la démocratie et à la souscription du Burkina Faso à la Charte internationale et universelle des droits de l'homme. Cette charte qui régule le fonctionnement des démocraties ou des nations qui aspirent à la démocratie. C'est un crime contre le droit humain international. C'est une prescription qui consiste à légaliser les crimes d'État, les crimes de sang et les crimes économiques. Et nous pensons que l'humanité dans son évolution actuelle n'a pas besoin de criminels et que le MPSR tente de créer une sorte de diversion pour servir l'impunité comme une assiette de gouvernance. Et pour nous, c'est un crime absolu, c'est un viol de l'imaginaire des martyrs des 30 et 31 octobre, c'est une violation flagrante de tous les efforts de notre lutte à faire du Burkina Faso une nation de paix. La place des bourreaux, c'est derrière les barreaux.
Demain, aux côtés d'anciens présidents tels que Roch Kabore, Michel Kafando, Isaac Zida et Jean-Baptiste Ouédraogo, Blaise Compaoré participera à une rencontre avec le président Damiba. Après la rencontre, selon nos sources, il devrait retourner samedi à Abidjan. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les combats ont repris aujourd'hui entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, moins de 24 heures après la tripartite à Luanda, en Angola, entre le président du Rwanda, Paul Kagame, son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, et le médiateur, João Lourenço de l'Angola. Tripartite à l'issue de laquelle un cessez-le-feu immédiat a été annoncé. Eddy Sango a joint dans le territoire de Rutshuru, dans le Nord Kivu, le porte-parole du M23, Major Willy Ngoma.
S'ils n'ont pas signé le communiqué final, là, je n'entre pas. Mais le président Bertrand Bissimwa et le général-major Sultan Makenga et le secrétaire exécutif Benjamin Monipa qui engagent le M23. Le M23 n'est engagé par aucune autre tierce personne, monsieur.
Le président angolais, João Lourenço, a annoncé que les partis sont arrivés à un cessez-le-feu. C'est vous qui vous battez sur le terrain. Pourquoi ça ne vous convient pas?
Si vous demandez le cessez-le-feu, il faut qu'il y ait deux parties belligérantes, monsieur. Je pense que c'est nous, les M23 et les gouvernements congolais. Moi, je pense que le Rwanda n'est pas en guerre contre la République démocratique du Congo, monsieur. C'est le M23 qui est en guerre avec la République démocratique du Congo. Intellectuellement, messieurs, soyons quand même raisonnables. Donc, c'est le M23 qui est représenté par le président Bertrand Bissimwa et le général-major Soutel Makenga et le secrétaire exécutif Benjamin Monipa. Ces trois-là qui peuvent représenter le M23. Donc, c'est le M23 qui est en guerre, en conflit avec le gouvernement congolais. Les problèmes M23, c'est nous sommes des Congolais, nous nous battons combattons pour une cause noble, juste et reconnue par le gouvernement congolais et même par le monde entier.
La RDC accuse le Rwanda de vous soutenir. Donc, le Rwanda a été là à titre des parrains, comme l'accuse la RDC.
Prenez-moi au mot, concentrez le débat du M23 autour des soi-disant agressions ou bien soi-disant l'aide du Rwanda, comme cela est quand même à l'actualité depuis un certain temps. C'est une impasse pour la recherche d'une solution à la crise. Le gouvernement sait pertinemment bien pourquoi le M23 a pris les armes. Nous avons signé les accords et la communauté internationale nous est témoin. Donc dans ce sens-là, nous sommes clairs, nous sommes disposés au dialogue, mais qu'on ne puisse pas nous dire que non, nous sommes aidés par qui que ce soit, ou bien non, ça sont des tralala, ce sont des faux fuyants. Nous sommes les Congolais. 99% de notre effectif était au sein de FRDC. Ils savent ça pertinemment bien. Ils savent pourquoi nous réclamons nos droits les plus légitimes, messieurs.
Nous apprenons que les combats ont repris aujourd'hui, moins de 24 heures après ce qui a été fait à Luanda. Comment vous expliquez cela?
Mais c'est ce qui... Ah, bon, ils ont signé les cessez-le-feu, non?
Donc, vous n'êtes pas dedans?
Les FRDC sont venus nous attaquer comme d'habitude avec l'œuf de l'heure. Nous n'avons fait que répliquer à l'air fait, messieurs.
Dans les communiqués publiés après cette rencontre de Luanda par la présidence de la République, il a été dit clairement qu'ils se sont entendus pour la cessation d'hostilités et qu'il demandait au M23 de cesser les hostilités et de quitter les endroits qu'il détient.
Quitter les endroits que nous détenons pour aller où? C'est là où il y a les problèmes. Pour aller où? Dans quel pays? Par ricochet, on nous considère comme nous sommes des étrangers. Nous ne pouvons pas encore entrer en exil, monsieur.
Major Willy Ngoma, porte-parole des rebelles du M23.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Togo, les autorités affichent leur volonté de réduire la dépendance au blé dans la fabrication du pain. Les initiatives privées qui utilisent des procédés alternatifs seront portées à plus grande échelle. Le ministère du Commerce indique que c'est un paradigme qui s'impose au gouvernement qui vient d'organiser une journée de dégustation du pain à base de produits locaux. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Depuis que les prix de la farine de blé ont flambé, la nécessité de trouver d'autres voies pour faire du pain est devenue le leitmotiv du gouvernement togolais. Le président du syndicat des boulangers du Togo indique que le pays avait déjà une longueur d'avance. Bonaventure Boma Atta.
Au Togo, certaines boulangeries ont pris bien le devant avant le contexte actuel de valoriser sa céréale et tubercules locaux pour produire du pain local, même si cette production est méconnue par la majorité de la population. L'Association des boulangers du Togo reste résolument engagée pour faire du pain consommé dans chaque contrée de notre pays, un pain à base de nos produits locaux.
Madame Assa aime bien les pains à base de produits locaux, mais elle pense que le prix peut être un frein à leur consommation.
C'est très bien si vraiment on peut aider la population à consommer local, ce serait vraiment, vraiment intéressant. J'ai dégusté le pain de patate d'eau sucrée là. C'est bon, mais quand j'ai demandé les prix, c'est pas facile pour tout le monde de l'acheter. Parce qu'un pain, une baguette, ça fait 250. Ça va être compliqué que toute la population puisse l'acheter. Ça va être le domaine des privilégiés, quoi.
Il n'y a pas que le prix qui est un frein à la popularisation de ce type de pain. Madame Amouzou est spécialiste de boulangerie locale.
Les taux de nos farines dans le blé ne répondent pas à tous les produits finis. Si je prends les biscuits, on peut aller à 100% avec le maïs, 100% avec le sorgho, avec le riz. Mais avec les tubercules, nous ne pouvons pas parce qu'il manque du gluten dans nos farines. C'est là où nous dépendons encore du blé.
Le ministre du Commerce et de la Consommation locale, Kodjo Adeje, rassure quant aux dispositions prises par le gouvernement.
Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour encourager davantage la consommation locale. S'agissant de la composition des farines locales utilisables dans la fabrication du pain, des croissants et des cakes, un comité scientifique, je voudrais vous rassurer, il travaille déjà pour son optimisation. Par ailleurs, des séances de sensibilisation des boulangères et de boulangers sur les procédés et l'utilisation des farines locales panifiables est prévue.
Au gouvernement, on annonce une série imminente de manifestations de renforcement à grande échelle des producteurs de farine et des boulangers sur toute l'étendue du territoire national. Kossi Wousou, Lomé, pour VOA Afrique.
Washington, la voix d'Amérique.
En Côte d'Ivoire, la célébration de la fête de la Tabaski est prévue ce week-end. À moins de 72 heures de cette fête, notre correspondante à Abidjan s'est rendue à l'abattoir dans la commune de Port-Boué. C'est toujours de grands marchandages sur les prix des moutons et tous les petits commerces en prévision de la grande fête musulmane. Ambiance et décor avec Delphine Bouise.
À l'abattoir de la commune de Port-Boué, c'est un incessant balai de camions chargés de bovins et d'ovins, des va-et-vient interminables d'hommes et de femmes à la recherche de moutons à portée de leur bourse. Le marché aux moutons est d'ailleurs décentralisé et bien fourni, surtout après l'ouverture des frontières avec le Mali et la levée de l'embargo de la CEDEAO. Comme chaque année, les acheteurs se plaignent des prix qu'ils qualifient d'inaccessibles.
Le moment, j'ai pas vu l'acheter. Trop cher. Trop cher. Les moutons sont à 250, 300 000.
Je viens d'acheter ce mouton à 105 000. Et cette année, c'est cher. Très cher.
En dépit du prix élevé du mouton pour la fête de l'Eid el-Kébir, les fidèles se sont tournés vers les bœufs dont les prix sont plus raisonnables et permettent de mieux partager.
Le mouton, même, c'est ça même qui est important. Mais cette année, le mouton est devenu très cher. Les gars nous disent, le mouton à 360 000. Or, dans le B est plus gros que le mouton. Donc, préférez maintenant de payer le B maintenant pour que si on tue, on peut donner au bout de personnes.
Les vendeurs de moutons se défendent et expliquent la hausse du prix.
Pour payer le mouton, là, et puis pour nourrir, là. Donc, il faut que si tu n'as pas fait un peu ça aussi, ton attente aussi ne saute pas. Donc, si on fait tout ça, les calculs, là, c'est ça qui fait que bon, les moutons deviennent serres, là.
Autour de l'abattoir, un gigantesque marché à ciel ouvert. Aminata Traoré est adossé à une planche devant sa cuvette de céréales.
Ils vont manger des moutons. Ça, c'est mille. Ça aussi, c'est beaucoup. On mélange les deux pour donner un mouton. En fait, cette année, ça ne marche pas.
Par contre, pour Ahmed Bamba, jeune garçon d'à peine 18 ans, lui a le sourire en coin.
Non, moi, je suis là pour que quand les clients payent, moi, j'attache les moutons pour aller ça. Quand ils mettent ça, ça dépend. On peut donner 500 000 francs à la journée. 2500 ou 3000.
Mori Kanouté, au milieu de ses sacs, vend toute autre chose pour nourrir les moutons.
Si là, on vend pour des manœuvres. Ça, là, on prend pour, genre, pour nourrir les moutons. Là. On vend ça 1000 francs, 1500, un sac. En tout cas, on gagne un PV.
Aussi, Opong, vendeur de couteaux pour dépecer la viande, est un habitué de la foire aux moutons.
Il y a 1000 francs, il y a pour 500. Gros, là, c'est 2000. Ça, c'est gros, on prend pour couper os. Mais il y a petit, il y a 200, il y a 300. Moi, je suis dedans. Tout le monde est payé. Cette année, là, il dit Dieu merci, ça va aller.
Des jeunes filles aussi, ils trouvent leur compte. Elles vendent de l'eau pour le bétail. C'est tout ça va de Gaulle, la responsable de ces femmes.
Quand ils envoient mouton là, nous on vient puiser l'eau pour leur donner. Une bassine c'est 300, il y a d'autres qui veulent ça 200, 250, on leur donne. Souvent on peut gagner 5 000, 10 000.
La fête de la Tabaski est aussi un moment de retrouvailles en famille. C'est aussi la fête des transporteurs, car bien de fidèles musulmans font tout pour retourner dans leur ville et village d'origine. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde. Georges Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.